Oui, cause toujours qui vient nous parler de cette proposition de loi sur l'euthanasie qui fait un petit peu peur à ceux qui sont contre l'euthanasie, puisqu'il y a 130 députés socialistes et peut-être un certain nombre de députés de droite qui vont se joindre à eux. Il est possible que cette proposition puisse passer. On en parle tout à l'heure.
Bah faisons un chemin vers notre blogueur.
Le grand rendez-vous de 17h sur RCF avec Face aux Chrétiens.
Tous les jeudis, une personnalité politique répond aux trois rédactions de La Croix, Radio Notre-Dame et RCF.
Ministres, parlementaires, politologues ou responsables religieux, ils participent tous au grand débat d'actualité Face aux Chrétiens. Chaque jeudi à 17h sur RCF. Rediffusion à 23h.
Il est 9h14, vous écoutez RCF et nous sommes en compagnie, comme chaque jeudi, d'un blogueur de la blogosphère Cato. Et c'est Cause Toujours qui est avec nous ce matin. Bonjour Cause.
Bonjour Nathalie.
Alors vous allez nous parler d'un sujet grave, d'un sujet sérieux. Je crois que c'est le 20e billet à peu près que vous publiez sur la question sur votre blog, causetoujours.fr, sur l'euthanasie, tout simplement parce qu'il y a une proposition de loi qui se profile et un certain nombre d'associations appellent à la mobilisation. Alors est-ce que c'est une énième mobilisation ?
Effectivement, c'est la question qu'on peut se poser. On peut se demander parfois si les cathos ne jouent pas à se faire peur en craignant que l'euthanasie ou d'autres sujets passent à l'Assemblée nationale. Si ce n'est que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, cette fois-ci, on n'est pas sur une proposition de loi qui rassemble 4 ou 5 députés, comme pour la proposition des députés UMP en début d'année. On est sur une proposition de loi qui rassemble plus des deux tiers du groupe socialiste, donc près de 130 députés, et que des députés de la majorité ont déjà annoncé qu'ils pourraient la voter. Plus de cela, même si on sait très bien que le groupe socialiste n'est pas majoritaire à l'Assemblée, on sait aussi que ce ne serait pas le premier cafouillage parlementaire de la saison. On a déjà eu des sujets qui n'auraient pas dû passer à l'Assemblée sur d'autres thèmes et qui sont passés parce que tel ou tel député était dans sa circonscription à la buvette ou s'est prétendument trompé de bouton au moment de voter. Et comme certains députés UMP ont déjà annoncé leur intention de rallier cette proposition de loi, il y a un vrai sujet de mobilisation cette fois-ci.
Alors Cause Toujours, selon vous, donc en quoi cette proposition de loi est-elle choquante ?
Moi, ce qui me choque profondément dans cette proposition de loi, c'est que cette fois-ci, ça a déjà été le cas par le passé, mais c'est qu'elle se prévaut de la notion de dignité. Or, quand on affirme que dans le cas de certaines maladies, on peut mettre fin à la vie d'une personne pour préserver sa dignité, c'est affirmer, ou c'est même seulement admettre en creux, qu'une telle personne malade puisse être indigne. Alors, on avait déjà une association qui, par but de rhétorique, avait manipulé un peu cette notion de dignité. C'est l'association pour le droit de mourir dans la dignité.
ADMD, oui.
Voilà, l'ADMD. Et quand effectivement ce n'est qu'un lobby qui instrumentalise cette question, c'est déjà odieux. Mais quand on peut imaginer que cette question et l'insinuation que l'on puisse être indigne parce que l'on est malade puissent être inscrites dans les lois de la République, pour le coup, là, ça devient indigne. Et je pense que tous les humanistes, qu'ils soient catholiques ou qu'ils ne le soient pas, devraient refuser fermement que la loi de la République puisse ne serait-ce qu'insinuer l'hypothèse de l'indignité d'un homme. Quelle que soit la condition dans laquelle on est, quelle que soit éventuellement la puanteur, parce qu'il faut admettre que effectivement la mort, c'est pas une histoire romantique, personne ne prétend que ce soit le contraire, dans certains cas, ça peut être terrible, mais il faut admettre que dans tous ces cas-là, un homme reste toujours, toujours digne. Et on ne peut pas renvoyer à la face des gens malades l'idée qu'une partie de la société puisse penser qu'il serait indigne. Et ce jour-là, si on le fait, si on l'inscrit dans la loi, je pense qu'effectivement, ces personnes-là seront éventuellement amenées à penser elles-mêmes qu'elles sont indignes parce que d'autres le pensent et que, par voie de conséquence, ça devrait impacter leur propre situation.
Vous allez plus loin que cela encore hein, dans votre blog. Vous allez carrément jusqu'à dire que c'est l'idée même de la société. C'est presque une question de civilisation qui est en jeu.
Oui, pour moi, c'est totalement ça. Est-ce que l'on a encore l'ambition d'être vraiment une société, c'est-à-dire pour moi une communauté fraternelle, ou est-ce que nous sommes une simple addition, une agrégation d'individus indifférents au sort des autres? Si on a l'ambition d'être une société et de se soucier de celui d'à côté, on ne peut pas accepter d'effacer simplement le problème. Notre ambition, ça doit être non pas de mettre fin à la vie d'une personne, mais de mettre tous nos moyens au service des solutions qui peuvent rendre cette fin de vie supportable et qui puissent garantir, parce qu'on est capable de le faire, on le fait dans les services de soins palliatifs, qui puissent garantir à ces personnes une fin de vie qui est tout à fait digne et dans laquelle il se passe encore des choses mystérieuses, des choses phénoménales. Je pense au livre de Marie de Henzel, La mort intime, et qui est un livre dans lequel elle retrace nombre d'exemples dans lesquels même une personne qui demandait à mourir en arrivant et qui quelques jours plus tard dira à Marie de Henzel, il a fallu que j'en arrive là pour découvrir que la bonté existe.
Alors la Marie de Henzel, hein, on l'a connue entre autres parce qu'elle est conseillère maintenant à droite, mais elle a été accompagnatrice de François Mitterrand dans son cancer à la fin de sa vie. Effectivement, ce bouquin est vraiment très intéressant. Mais alors que répondriez-vous aux gens qui vous parlent, qui vous diraient dignité, d'accord, mais la souffrance alors?
Je réponds dans un premier cas qu'évidemment il n'est pas question, il serait indécent de ma part d'ignorer la souffrance ou de la négliger, mais aujourd'hui on a quand même énormément progressé de ce côté-là. J'ai rencontré l'année dernière, au moment du lancement d'un collectif qui s'appelle Plus digne la vie, un ensemble de médecins qui dirigent des services de soins palliatifs. Les progrès qui ont été faits sont considérable. Évidemment, il reste de la souffrance, mais on est en mesure de la diminuer énormément. Et puis, je n'ai pas suffisamment d'expérience, je ne fais que me fier à l'expérience des autres, mais certains de ces médecins disaient quand même assez clairement que la demande d'euthanasie n'est pas toujours liée à la souffrance physique.
Vous vouliez nous parler, toujours d'une loi récente aussi de 2005 hein, qui a permis de développer les soins palliatifs.
Exactement, parce que c'est aussi une des questions qui se pose. On a eu en 2005 un débat parlementaire qui a débouché sur le vote unanime d'une loi. Quelle que soit la place sur l'échiquier politique, tout le monde a été d'accord pour accepter cette loi qui a été en partie suscitée par le cas de Vincent Humbert. Et depuis cette époque-là, les données fondamentales n'ont pas changé. La mort, la souffrance sont toujours là. La seule chose qui a changé, c'est probablement de plus grands progrès dans les soins palliatifs. Or, je pense que si on envisage la légalisation de l'euthanasie, on portera un coût important, si ce n'est fatal, aux soins palliatifs.
Tout simplement pour une question d'argent.
Exactement. Et là, je pense qu'il ne faut pas que les gens croient qu'on est en train d'agiter des dérives imaginaires, des choses, des épouvantails pour faire avancer nos idées. Il y a un cas très précis qui s'est produit il y a un an et demi, aux États-Unis, dans un de ces États dont on nous dit qu'ils sont très en avance sur nous et qu'ils sont progressistes. C'est l'État de l'Oregon, dans lequel des malades en phase terminale ou quasi-terminale ont reçu un courrier les informant que leur traitement ne serait plus remboursé parce que le pronostic vital était trop engagé, mais qu'en revanche, s'ils souhaitaient faire cette option, la mort médicale, l'euthanasie, leur serait, lui, remboursée.
Sans commentaire.
C'est sans commentaire et c'est ce à quoi on est susceptible d'arriver qu'on n'est pas meilleur que les Américains.
On va peut-être citer, parce que vous en parlez dans votre papier sur votre blog causetoujours.fr et c'est quand même très intéressant, l'initiative de l'Alliance pour les droits de la vie.
Oui, exactement, parce que c'est vrai qu'on peut se dire qu'on ne fait finalement que parler, que bavasser de façon peut-être un peu inutile. L'Alliance pour les droits de la vie a notamment publié un document qui recense 10 idées solidaires contre l'euthanasie, Alors, je ne vais pas toutes les citer, mais je peux vous en citer deux, trois. Il est notamment demandé des choses simples comme donner, prendre des nouvelles des personnes malades, les visiter, toujours écouter. L'intitulé, c'est écouter, écouter et écouter. Ne jamais cacher la vérité, ne jamais cesser de considérer chaque personne comme vivante. Ce sont des choses qui peuvent nous paraître dérisoires face à l'immensité de la souffrance que l'on peut ressentir. Et pourtant, les personnes qui suivent des malades en fin de vie au quotidien vous diront que ce sont des petites choses comme ça qui manquent et qui peuvent parfois suffire à retirer à une personne cette envie de mourir et à faire cesser cette demande de mort. Donc je trouve que ces 10 idées qui sont données sont des idées que l'on peut mettre en pratique si on a le courage de s'impliquer au lieu de se terrer dans des idées préconçues sur la mort.
Merci de faire souffler en tout cas la vie et de remettre sur la table ce sujet qui vous touche, on l'entend, qui nous touche tous de toute façon. On vous dit à très bientôt, Cause Toujours.
Et on renvoie bien sûr tous les auditeurs à la lecture de votre blog www.causetoujours.fr et cause, ça s'écrit K-O-Z parce que c'est du breton, m'a-t-on appris. Merci.
De la